gueule ta gueule pas, ferme-la.
Bienvenue chez WAM, bienvenue chez WAM, c'est une émission tranquille. Hein. C'est, bah, on est déjà en train de rire, tu vois. Il est 15h, mercredi, je suis avec mon invité du jour. J'ai l'habitude de dire que j'invite des gens qui font des trucs.
Ouais.
Des trucs bah, différents, hein. Ça peut être associatif, économique, culturel. Aujourd'hui, je reçois un journaliste, écrivain, Julien Barret, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien. Des gens qui font des trucs, ça te dérange si je dis ça ou est-ce que tu te sens bien là-dedans?
Ah ouais,
tu...
ouais, parfait, ouais. Faire ouais. Des trucs, ça peut vouloir évoquer plein de choses, mais ça a une notion d'être actif, quoi.
Ouais.
De produire quelque chose, avec, j'imagine que tu sous-entends l'idée de, que ça peut changer quelque chose.
Eh ben, j'allais le dire, exactement. Parce que quand je dis faire des trucs, faut pas croire que ça veut dire faire n'importe quoi. Faire
pas du bricolage chez soi.
Voilà, exactement. Moi, c'est des choses où on invite avec Samba des gens qui, pour moi, sont intéressants à que je trouve intéressant ou qui sont intéressants à faire découvrir au public. Notamment, bah, toi qui es journaliste linguiste et qui a écrit ce livre que j'ai dans les mains qui s'appelle « Tu parles bien la France » pour lequel on te reçoit. Mmh. C'est « Essai sur la langue française d'aujourd'hui ».
Ouais.
Ça se trouve.
Un sous-titre.
Ouais, c'est un sous-titre.
Pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas... Ouais. Le côté ironique du titre.
Parce que, oui, j'ai vu dans les critiques qu'on t'a fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ce titre, hein, qui ne comprennent pas l'ironie du titre. Hein. Tu parles bien la France.
En fait, il y a eu une interview sur le site internet du Figaro qui a fait un énorme buzz totalement inattendu. Mais en général, quand tu parles de langue française, surtout à cette époque, les gens, ça les touche au cœur. Donc là, il y a eu, je sais pas, 500 commentaires, dont beaucoup qui m'insultaient, qui disaient que j'étais la mort de la France et tout. Et pas mal de gens ont pris ce titre au premier degré en me disant « Non, déjà, c'est pas du français. On dit « Tu parles bien français ». On dit pas « Tu parles bien la France ouais. ». Si tu lis le titre, il y a un point d'exclamation. Et si tu regardes à l'intérieur, c'est entre guillemets. Donc je reprends une expression que j'entendais depuis l'école maternelle à côté de Belleville, à Pelleport où j'étais, et que j'entends un peu partout, et qui consiste à critiquer l'autre. Ce que j'observe, c'est qu'en France, on est tous là à se critiquer les uns les autres en prétendant avoir le bon usage. Et on dit « Ah ouais, c'est ça, tu parles bien la France ». Et sous-entendu, je me fous de ta gueule en utilisant une formule fautive pour souligner ton problème d'usage du français. Quoi.
Ouais. Tu parles bien la France, on va y revenir, mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, une première anecdote qui me fait rire, parce que justement, en France, on aime bien effectivement toujours corriger l'autre, comme tu le dis dans ton livre. Et moi, il y a une expression que j'aime bien utiliser, que j'ai entendue dans un film, c'est référence à un film, c'est Les Affranchis.
Ouais,
je crois. Et oui, voilà. Et à un moment, il y a le parrain qui dit on n'est pas des animaux.
Ah oui.
Et
ça a été vachement repris dans le rap, ça. Hein.
Et ben moi, j'aime bien cette expression-là. Et l'autre jour, je disais à une dame comme ça, oui. Non, je lui disais comme disait l'autre, ouais, on n'est pas des animaux. Et elle me reprend et elle me dit on n'est pas des animaux. Et elle me le dit d'un ton. Je lui dis mais c'est pas moi qui dis ça, j'ai bien dit comme disait l'autre. Je lui dis non, moi je sais, j'ai dit comme disait l'autre. Et donc ça m'a fait rire quoi. Et je me suis dit bon, je vais la ressortir, mais c'est vrai que c'est difficile de la, parce que les gens ils comprennent pas le second degré quoi.
Ah, il faut qu'il y ait une connivence. Si tu fais une blague, si tu dis ah c'est la mer à machin et que tu prends l'accent du sud, tu peux te faire reprendre immédiatement. Ça dépend, ouais, ça dépend le degré d'intimité, de connivence et le fond que tu partages.
Bah c'était la première fois que je la sortais à l'extérieur. Quand je la sors avec des potes, voilà. Quand je la sors avec des potes, tout le monde rigole parce que tout le monde sait de quoi je parle. Mais là, c'était la première fois que je la sortais à l'extérieur.
Voilà,
et c'est dangereux. C'est
dangereux parce que ça implique qu'elle t'a pris vraiment pour un teubé.
Je crois, ouais. Peut-être, ouais, apparemment, ouais. À propos de prendre les gens pour des teubés, parce que attention, tu parles de ça. Tu débutes justement sur cette expression, tu parles bien la France, et tu dis que c'est un souvenir de l'école Bretonneau dans laquelle je suis allé aussi.
Ah bon ?
Ouais. Et tu vois, moi j'ai aucune difficulté avec le français et tout, et mais.
Les gens de l'école Bretonneau tout le monde. Pas de difficulté avec le français.
Mais au début, quand je lis ton bouquin, bon, heureusement, je t'ai déjà reçu, on va te présenter tout à l'heure, hein, t'es pas à ton premier essai, mais je tombe sur cette histoire et j'entends. Je me rappelle plus quel prénom, Farid qui dit à
Tarek et Moussa.
Tarek
c'est une
et Moussa.
Vraie, parce que
d'accord. Heureusement que c'est une histoire vraie parce que je me dis, ça y est, c'est encore on va encore mettre ça sur le dos de la banlieue, les banlieusards qui parlent mal et il faut les éduquer et
non,
tout ça.
L'idée c'est que tout le monde se reprend en France, mais que cette pression qui est mise inconsciemment de mon point de vue chez chacun des locuteurs pour parler parfaitement français, elle est intégrée par tout le monde, quelle que soit l'origine. Et c'est justement pour contrer ce cliché-là. Mais qu'on soit ouvrier, académicien, bourgeois, bobo, limite lascar, d'où qu'on parle et qui qu'on soit, on est toujours en train de faire très attention, et quel que soit l'usage, ça peut être différentes manières de parler, mais on est toujours en train de se corriger les uns les autres. J'observe ça.
Parce que si tu vas dans le Nord, par exemple, j'ai envie de cibler d'autres personnes que les banlieusards. Attends, va dans le Nord un peu. Et je pense que.
Je pense qu'il y a les mecs qui se foutent de la gueule des ceux qui. Enfin, les mecs du Nord qui sont. J'allais dire qui ont bougé à Paris, qui reviennent. Il y a toujours ce truc de supériorité parisienne qui est un peu absurde, mais tu vas toujours retomber sur des gens qui ont fréquenté différents milieux. Enfin, une fois que tu as été confronté à un truc assez parisien, assez élitiste de mépris ou de supériorité, tu vas sans doute être amené à l'intégrer et ensuite à le partager avec les gens qui sont autour de toi.
Alors comme Samba, il me montre sa montre. Qu'est-ce que c'est ça, une allitération? Il me montre sa montre? Non.
une rime
comment?
Équivoquée.
Ouais, mais je vais.
Ou un calembour.
Je vais. Tu sais, justement, je vais te présenter. Je vais dire comme ça, les auditeurs ils sauront pourquoi je te pose la question. Donc j'ai dit linguiste. Alors diplômé en journalisme, titulaire d'un DEA de linguiste.
De linguistique.
De linguistique sur les jeux de mots, justement.
Ouais, j'avais fait un mémoire sur les jeux de mots, les calembours. Ouais. J'aurais pu citer ton montre, ta montre.
Et
y a pas d'arrêt dans le beefsteak.
Voilà, nous on t'a reçu déjà pour. Alors, t'as une spécialité peut-être ou quelque chose qui t'attire beaucoup, c'est le rap. Le spoken word,
la poésie orale.
La poésie orale, ouais.
J'ai un site, c'est Critique Comics, c'est donc décrit depuis 12 ans. Je vais voir le stand-up, le one-man show, et j'essaye d'analyser ça très sérieusement et de prendre ça au sérieux et de comprendre comment ça se passe. Et j'ai écrit un livre sur le rap et un autre avec Souleymane Diamanka sur le slam et la poésie orale.
Écrire à voix haute.
Voilà. Tu pourrais réunir tout ça et dire c'est la performance vocale d'aujourd'hui ou la poésie orale ou la. D'ailleurs, le stand-up et le rap, il y a pas mal de points communs. Tu sais, il y a les phases qui sont reprises de l'un à l'autre, dans quelle mesure ça a été parodié, imité. Et puis, il y a cette question d'efficacité scénique. Le rythme, toujours le rythme, le delivering, comme disent les Américains, et le flow, le débit, la scansion, qui sont des choses qui m'intéressent beaucoup, quoi, d'un point de vue linguistique, que tu retrouves dans la société.
D'accord. Et qui, bien souvent... se rapproche plus du langage oral que du langage écrit.
Si tu considères une performance vocale, oui. Et après, il y aura.
Parce que c'est écrit de toute façon. Là, on parle d'oral,
c'est ça,
l'oralité, mais ça a été écrit au départ.
C'est une bonne question. Dans quelle mesure après,
souvent, à part les
problèmes, c'est un problème que je soulève dans le livre. C'est en France, le côté entre l'oral et l'écrit, c'est effectivement pas les mêmes langues. La façon dont on s'exprime, on va agencer les mots d'une certaine façon. Notre grammaire et notre syntaxe seront pas la même que si on écrivait. Ouais. Et le stand-upper, l'image générique du stand-upper, c'est quelqu'un qui arrive à te donner l'impression de spontanéité. Il fait semblant il s'adresse au public directement, mais il fait semblant plus ou moins d'improviser par rapport aux chroniqueurs à la française, je sais pas, à la Stéphane Guillon, tous les chroniqueurs que t'entends à la radio. Eux, ils sont plus dans un truc une sorte de veine de chronique très écrite, genre je me regarde conjuguer l'imparfait du subjonctif et tout, alors que le stand-upper, dans tous les cas, ce sera écrit, mais lui va donner le sentiment que c'est oral, quoi, qu'il est en train de te parler. Il aura écrit de telle sorte que ce soit naturel, que ça semble naturel à l'oral.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin là? Tu parles bien la France. Pourquoi tu l'as écrit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, j'ai trouvé que... Alors, j'ai parlé du début, j'ai parlé de l'introduction, enfin, du prétexte à l'écriture, cette histoire, cette fameuse histoire où deux gosses s'interpellent et l'un dit à l'autre « Tu parles bien la France » pour lui montrer que, justement, au contraire, il vient de faire une faute de français. Mais dans le reste du livre et dans la globalité du livre, j'ai l'impression que tu dédouanes un peu ceux qui parlent mal le français, ou tu essayes de combattre ce côté élitiste de la langue française.
En fait, personne ne parle parfaitement le français, ou ce serait très très rare. Déjà, le fait de parler à l'oral fait qu'on va enchaîner les mots, faire un cuir, une mauvaise liaison et tout.
Et parler à l'écrit, c'est quoi ?
Parler à l'écrit, c'est c'est un pléonasme que je viens de faire, bien joué.
Mais non, mais t'es un linguiste, j'essaye de te...
Ah ouais, ouais,
parce que
tu
finis par là, d'ailleurs, justement, par corriger les correcteurs.
Ouais, en fait, il y a des coachs en orthographe, et le fait qu'on soit dans un pays aujourd'hui où le problème, ce soit d'avoir un coach en orthographe, ça me semble assez triste à plusieurs égards, mais le coach en orthographe, il fait un site internet, il y a des fautes dessus.
Ouais.
En fait, les gens, c'est l'attitude que j'ai eue et que beaucoup de gens ont eue. Et quand j'étais petit, je corrigeais les fautes que je voyais chez les gens qui...
Tu fais plus ?
Non, je le fais que à des gens que je connais bien.
Ah, d'accord, parce que t'es français. C'est très... Moi, je t'assure que j'ai lu le bouquin et j'aurais dit la même chose que toi. Moi, je le fais pas, mais si.
Tout à l'heure, t'as fait une erreur français, d'accord. Ouais. Je te l'ai pas dite.
Ah bon ?
C'est l'accord du participe passé.
Ouais. D'accord. Je te l'ai pas dit ou je te l'ai pas dit ?
Mais ouais. Voilà, c'est ça. J'aurais dit, je te l'ai pas dit.
Ouais.
Donc, je te l'ai pas dite. Ça aurait été absurde que j'arrive et je te dise, ah, non, attention, là, t'as fait une faute et tout. Ouais. Mais tout le monde fait ça tout le temps. Mmh. Je me permets de dire que c'est plus intéressant de chercher à connaître l'origine de l'histoire de la langue française pour voir dans quelle mesure il y a la règle. D'accord du participe passé là, les lettres que j'ai écrites, c'est pas très logique comme règle. Et je dis pas qu'il faille la changer, mais je te dis cette règle là, c'est Marot qui l'a fixée au 15e siècle. À l'époque, c'est François 1er qui essaye de fixer, qui veut avoir des règles à la langue française, et ils imitent les Italiens à la Renaissance. Avec avant la Pléiade, Marot dit que à l'imitation de la langue italienne, on va accorder le verbe à, non pas avec le sujet. C'est moi qui ai écrit les lettres. Quand je te dis les lettres que j'ai écrites, ce serait logique puisque c'est moi qui les ai écrites.
Oui.
Non, on va l'accorder avec le complément d'objet quand il est placé, etc. Quand avant le verbe. Ouais. Voilà, cette règle-là, tout le monde, ça m'arrive très bien de pas la respecter. Mmh. Je dis juste que le but dans la vie, c'est pas de corriger les gens qui font entorse, c'est de savoir d'où elle vient. Pareil sur l'orthographe, il y a plein de gens qui défendent Mordicus. Mordicus, ça fait un peu capitaine ad hoc. Un peu Mordicus, l'orthographe. Et en fait, un mot comme nénuphar, ça devrait s'écrire avec un F. Ça vient de l'arabe ou du perse.
Tu dis même que ça s'écrivait.
Ouais.
Avec un F.
Proust l'écrit avec un F. Ouais. Et en 1935, un académicien a fait rentrer dans le dictionnaire la graphie PH. Mais qui n'a aucune raison d'être, parce qu'il s'est dit que ça venait du grec. Mmh. Alors s'il s'agit de se battre pour défendre le pH de nénuphar, je dis que c'est absurde et qu'il vaut mieux essayer de comprendre l'histoire de la langue plutôt de se corriger, quoi.
Alors on a une heure, on a plus que trois quarts d'heure, mais on a le temps de voir, parce que c'est... On se pose la question, est-ce que le français c'est une langue vivante ? Est-ce qu'elle va toujours rester une langue vivante pour toutes les langues ? Mais ce livre, il est assez vivant, quoi. Je le trouve très vivant, merci. Justement, parce que il est jonché de, rempli d'anecdotes, d'histoires. Il y a cette règle, ok, mais d'où ça vient ? Mais pourquoi ? Tu nous parles des réformes qu'il y a eu, dont tout le monde se moque, et que les réformes, bon ben voilà, elles passent. Mais comme on n'a pas envie, on préfère avoir une langue élitiste. Enfin, on se bat beaucoup, quoi, pour le français. Hein.
On refuse qu'il y ait la moindre réforme, à quelques égards, sur l'orthographe. C'est la réforme de 89-90, quoi, qui a été appliquée assez massivement en Suisse, en Belgique et au Canada francophone, mais plus difficilement en France.
Et je me suis posé la question tout au long du livre. Je me suis dit, mais est-ce que... Parce qu'on entend souvent, quand tu vas à l'étranger, ou quand on entend, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si les autres, mais que les Français sont pédants, prétentieux. Et quand on lit ton bouquin, on a l'impression que déjà la langue est prétentieuse.
C'est dans la langue.
Et je me demande, alors est-ce que c'est la langue qui fait qu'on est prétentieux, ou est-ce que cette langue, elle est prétentieuse parce que le peuple français vraiment est prétentieux ?
Je pense que c'est parce que la langue est... Alors, je vais encore. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est inadmissible de dire ça. C'est plutôt pas mal de dire la langue est prétentieuse, parce que quand j'avais fait l'interview au Figaro, ils ont titré « La langue est discriminante ». Et d'un point de vue linguistique, ça n'a pas trop de sens, parce qu'une langue, elle discrimine le oui, le non, le verbe, le passif, l'actif. Dire qu'une langue est prétentieuse, ça me convient plus. On pourrait dire une langue bourgeoise, parce que la langue française, elle s'est créée... Il y a une bonne ambiance.
Ouais.
Elle s'est créée à l'époque de Vaugelas, à l'époque au début du XVIIe siècle, autour de la cour au Louvre, ensuite à Versailles, au bord de la Loire. Et elle a voulu être comparée à une langue de la beauté, de la pureté. Elle a voulu être instituée à l'inverse des langues régionales, des langues paysannes. Oui. Donc il y a dans l'histoire même, dans la génétique de la langue française, quelque chose d'élitiste qui n'est pas connu des gens, mais qui remonte à la surface dans des attitudes et dans cette façon qu'on a de se corriger les uns les autres.
Alors, à la fois qui est élitiste et donc qui veut dire, moi, si je parle bien le français, je suis quelqu'un de bien, quoi, je suis quelqu'un, mais aussi pour se différencier des autres aussi. T'as vraiment l'impression, et c'est là où toi tu dis non, pas discriminant, ou discriminatoire, ou je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais c'est vrai que à la fois on corrige souvent son voisin, mais à la fois il y en a d'autres où on se dit, bon bah de toute façon lui.
C'est la langue en tant que telle, elle est pas discriminante, mais de toute façon la pratique de la langue, le regard social qui est porté par quelqu'un qui parle selon son accent et les fautes qu'il fait ou non, oui, c'est la société qui est discriminante, oui, et discriminatoire. Et la seule occurrence de ce mot discriminante, elle est dans une page, enfin bref, c'est à propos sous Jules Ferry. C'est une période qui est assez intéressante, parce que Jules Ferry, c'est l'école obligatoire et tout, mais c'est aussi la colonisation, et c'est aussi le fait que le français soit transmis dans toutes les écoles communales, par des maîtres qui vont réprimer leur langue maternelle, qui serait par exemple l'alsacien, l'occitan, le breton, et qui vont taper sur les doigts des élèves qui parleraient cette langue. Et ensuite, à ce moment-là, l'orthographe devient ce qui va permettre de faire la différence entre les bons et les mauvais élèves, et l'instituteur, ça va devenir le secrétaire de mairie, celui qui corrige et tout. Et à ce moment-là, il y a le problème de l'orthographe qui commence à surgir, dont on ne se souciait pas avant ça. Hein. Si tu prends des textes, des éditions du Moyen-Âge ou classique, il y avait plein déjà
les dictionnaires. Chaque mot a plein d'orthographes. Hein, ouais, effectivement. Ouais.
Déjà, le Robert et le Larousse, il doit y avoir 15 000 mots, ça dépend, qui varient. Voilà. À ce moment-là, il y a eu une seule orthographe, et si tu la sais, là, tu es au-dessus des autres, ou tu fais partie de la norme ou de l'élite, selon le point de vue. Quoi.
D'accord, on va parler de l'orthographe, parce que c'est intéressant ce que tu dis dans le bouquin. Mais d'abord, on va s'écouter un son, parce que je demande toujours à mes invités de nous amener de la musique, et là, on parle. Mais on va finir par pas s'écouter de son. Lino, la 12e lettre. Mmh. Pourquoi ?
Non seulement parce que j'aime le rap, que Lino est à mes yeux le plus grand rappeur français, qu'il a une maîtrise incroyable de la langue française, et en plus il appelle ça la 12e lettre, donc forcément une petite référence linguistique, lettriste, évidente.
Évidente. Si. D'accord, hein, évidemment, on va s'écouter Lino et on se retrouve tout de suite après sur FAP.
C'était un peu méprisant, évidente.
Ouais, évident. Non, je voulais dire, les auditeurs, ils le sauront, c'est évident, voilà, ils vont nous le dire. N'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook.
Parce qu'il y a le mot lettre.
Ouais, tout à fait. Et la 12e en plus. C'est Lino, la 12e lettre.
Maintenant, tu sais comment faire une bombe. Commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer, il y a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du son, je rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais, il y a drogue et alcool dans le processus créatif. J'augmente la masse et les degrés Celsius sans feu ni créatine, fait crier l'acier. Les platines brûlent trop près de la mouvance. Ton rap vieille mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. Ça claque, j'suis là pour frapper. Sexe souvent m'hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer, marquer l'époque et m'glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. J'prends mes balles dans l'alphabet, c'est D, E, F, G, I, J, K, L, qui c'est. C'est L, I, N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à L.E.T. Ça claque, j'suis là pour frapper. Sexe souvent m'hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer, marquer l'époque et m'glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. J'prends mes balles dans l'alphabet, c'est D-E-F-G-I-J-K-L, qui c'est. C'est L-I-N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à L-E-T. Le lanceur de l'âme liquide, j't'allume, c'est de la reine, allez, j'me livre. Salut la vie sur l'air de live and die in L.A. Là c'est la lutte finale sans délai. rythme soulage l'âme à l'oral fêlé, je bulle l'élu. M'a dit l'oracle, électron libre, j'ai l'aura qui lui sous la lune lance des litres de lyrics et les livres comme les lamelles dans la lune. Pas de larmes sous l'iris, j'ai l'allure d'un 9 milli. J'rappe au feeling, illico, j'file, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill kill, là j'écris l'hymne de la ville, ça kill kill kill. Comme l'île W Easy à Millie. J'me lâche sur leur sale style en leasing en 6 milli. Mec, le cash est l'illicite, l'île est l'ascar auquel je m'affilie. Ok, j'tape, j'milite, le ciel m'a limite. J'mis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lynchent en 6 lignes. On lave le linge sale enfin, milli. Le poids des lettres au kilo du lourd, là c'est plus du rap, c'est de l'altéro. Philly, en live du lab, j'largue les textes, j'ai l'inspiration. Je pas ex-Luther, avec l'esprit malade par la Lex Luthor. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 ppm. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Madame a grandi, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est con. T'es jusqu'à 12. Des lettres, des longues lattes, des kilowatts, de l'art libre, de l'hémoglobine et des larmes, de l'ammonie, des brûlots, des litres, on lâche, puis l'accusé chez Ondelat ou l'entierie. Du délit, puis l'objet, puis lu de long large, délivre le lion, libère des flots de lave, leur livre brûle, je lâche du lest, c'est mon délire, juste avant l'au-delà, je l'ouvre le beat, hurle, y'a trop de lâches à élire. Au lac, je mets le feu, illégal comme l'ancien collègue à Ellie, laisse les faire leur lap dancing, j'ai Lucifer à la haine de l'insigne, je suis élevé, je viens mettre le haut là. Je ligne passant la texte comme Willy la lampe. Je lance l'hymne de la tête, c'est létal comme une diablesse féline. C'est luxe, c'est salope à l'écran, des grosses liasses, des lignes blanches, l'enfer c'est délicé. Je lance l'alerte avant que mes négros se lancent. La playlist, je lui fais un lifting, c'est lisse et trop classe comme du Céline. L'industrie et moi, c'est Lefty et Donny sans lala. L'âge de l'aigle, ma sale littérin dur. Loin d'être light et légère, le level monte, c'est pas du lalan. T'as pas l'âge légal pour like mes lyrics. Et qu'à low kick, t'es un lac et j'suis en ligue 1 depuis L en nerf ou LL. Juste avant Mickey, M-I-L-L. Après Big L et I-L-L, Matic, Capit Rock et C-L, Smooth, époque lunatique et L. 430 de look, Lacoste avant LV Live des ruelles de VLBL, INO sur LP, Jean-Luc et Luciano dans l'aile. J'ai pas de plomb, moi j'lacère l'agneau. J'écris au laser pour les malheurs sans lèvres. À la nôtre l'heure, je la donne de l'ombre à la lueur, je me lève. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 ppm. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Madame a grandi, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est compté jusqu'à 12.
Douzième lettre, c'est Lino qui nous a été amené par notre invité d'aujourd'hui, Julien Barret, qui nous, avec qui on parle. Hein, depuis tout à l'heure, on essaie de bien parler la France. Mmh. Je sais pas, j'essaie de faire des jeux de mots, des trucs.
Ça marche.
Le titre de ton livre, de ton essai, Tu parles bien la France. Tu parles bien la France. Comment c'est perçu? Tu m'as dit que déjà il y a certaines critiques qui sont acerbes. Enfin, il y a des gens à qui ça plaît pas. C'est difficile quand même de modifier ou de
une expression.
Une expression, de triturer la langue. Et pourtant, dans ton livre, t'arrêtes pas de donner des exemples des grands auteurs qui eux ont fait ce qu'ils voulaient avec
exactement,
la langue
ouais.
quand ils voulaient, qui étaient contre les dogmatismes, qui étaient contre la difficulté de la langue.
Et qui les contournait les difficultés, enfin, ou qui était pour les difficultés, mais qui était pas pour une norme intangible. Alors oui. Parfois, j'écris le titre, c'est « Tu parles bien la France ». Et il y a des gens qui me disent « Non, on dit « Tu parles bien français ».
Oui.
Et alors là, ils écrivent « français » avec un F majuscule. Et tu te dis, merde, ils sont en train de faire une énorme faute. Pas parce qu'il y a différentes fautes d'orthographe. Il y a l'orthographe lexicale, c'est apprendre la complexité de nénuphar, alors que bon, c'est absurde. Mais l'orthographe grammaticale, c'est plus compliqué si tu confonds AI ou EST. Et si tu confonds l'adjectif, le nom d'un peuple, c'est gentilet ou le nom de pays, un français. Soit c'est français, c'est avec une majuscule, c'est le français. Et gentil ou je sais pas quoi, soit c'est l'adjectif l'art français, mais là il s'agit de la langue française, c'est un nom commun. Et si ils confondent je parle bien français et que tu mets une majuscule avec le mot français avec une minuscule, c'est une énorme faute qui correspond précisément à la blague tu parles bien la France, c'est-à-dire le mec qui dit à l'autre ou la fille à l'autre tu parles bien la France pour se moquer de lui ou d'elle, ça consiste à utiliser le mot France qui n'a rien à voir avec le français, c'est deux choses différentes et la preuve en est c'est qu'on est peut-être 65 millions en France et que le nombre de locuteurs du français, donc de francophones dans le monde, selon que tu maîtrises plus ou moins la lecture, l'écriture et tout, c'est entre 220 millions et 274 millions. Ouais. C'est pas la même chose, le français, la langue.
Et d'ailleurs, les autres, ceux qui ne font pas partie de ces 65 millions, ils le ressentent aussi parfois. Et ils nous le reprochent. Ils disent, moi aussi, je parle français, mais...
Et parfois, ils nous reprochent de pas suffisamment bien parler français. Et c'est absurde, venant de certaines personnes de France un peu repliées sur elles, d'imaginer que les seules personnes qui parleraient... Parfois, le français classique est sans doute mieux parlé en Afrique qu'en France. En Belgique, ils vont peut-être avoir plus tendance à prononcer les négations que nous. En tout cas, à Paris, on n'est vraiment pas des exemples. Et en France... Pour le français.
Et pourtant, comme dans tous les pays, il y a le bon parler, le bon écrit de la langue. Et en France, c'est à Paris, non ?
Alors,
où est-ce que c'est ? C'est où ?
Ça, c'est vraiment un truc.
En Italie, on dit la madrelingua. Tu sais, on sait d'où elle vient, la langue,
Dante, Pétrarque.
Voilà, exactement.
Bon, alors le français, comme je te disais, il est né plutôt au bord de la Loire et à Paris. Mais aujourd'hui, c'est là où il est le plus dégénéré, sans faire un jugement moral. Mais tu as du verlan, de l'argot. Parce que peut-être inconsciemment, les parisiens, les locuteurs parisiens, ils se disent inconsciemment, de toute façon, c'est chez nous que c'est né, donc on fait ce qu'on veut. Et les gens qui vont être peut-être plus en insécurité linguistique, c'est-à-dire sont moins sûrs d'eux dans la manière de parler, eux vont employer un français plus soutenu, je ne vais pas dire pur, parce que la notion de pureté, elle est un peu étrange, mais un français plus correct et plus soutenu pourra être parlé ailleurs que sur le territoire de la France. Quoi.
Sur le territoire de la France, oui. Alors, tu parles des origines, justement, tu as mentionné un petit peu les origines, bon, on sait, Languedoc, Languedoil, les langues qui se sont plus ou moins mélangé avec...
Il y a la question de l'accent qui rejoint ce que tu disais à l'instant.
Oui, et l'accent, mais ce que tu disais justement, ça me faisait penser à l'accent et ça m'a fait penser par exemple à Fernandel ou des personnes comme ça qui viennent du Sud et qui essayent de parler français mieux que les Parisiens ou aussi bien.
Ça s'appelle un phénomène d'hypercorrection. Quand tu viens du Sud et que tu essayes de gommer ton accent du Sud et au lieu de dire « mamang », tu veux dire « momon », avec un O, tu vois, fermé, ça s'appelle, c'est assez rigolo, j'en ai pas parlé d'ailleurs de ce truc-là, de phénomène d'hypercorrection, mais il y a une linguiste qui est par ailleurs très sympa, quand tu lis ses livres ou quand tu l'écoutes parler, qui s'appelle Henriette Walter et qui est très ouverte, qui dit dans un de ses livres, c'est toujours l'autre qui a un accent. Ouais. On pense toujours que c'est l'autre qui a un accent. Et donc j'ai entendu des gens, même de ma famille, dire, nous à Paris, c'est l'absence d'accent.
Oui,
c'est complètement
ça.
Ouf.
À Paris, il n'y a pas d'accent.
Pardon d'utiliser du verlan, ça me paraît un peu déplacé. Et il y a des gens qui disent, c'est au bord de la Loire, le français de Ronsard, de Dubélay, de la Pléiade, c'est là qu'il n'y a pas d'accent. Mais c'est absurde, il y a un accent partout. À partir du moment où on parle, il y a un accent. Il y a un accent tonique, il y a un rythme, il y a une locution.
D'accord. On va s'écouter un autre son, mais avant de... Parce que je voudrais qu'on parle aussi d'aujourd'hui, du plus gros danger du français, c'est-à-dire le SMS, le langage, tu sais, le SMS, le langage texto, de mail, le langage texto, enfin tout. Moi, je voudrais, dans cette histoire d'élitisme, il y a un exemple dont on a parlé, que je t'ai mentionné en off, c'est l'exemple de Ribéry.
Ouais.
Dont on se moque parce qu'il parle, parce qu'il fait des fautes de français, parce qu'il parle mal le français et que c'est la risée de tout le monde. C'est vraiment l'idiot du village parce qu'il s'exprime pas dans un français correct. Moi, je trouve ça inadmissible. Mmh. Parce que je me dis que t'as le droit, ça s'explique. Ta manière de parler, tout à l'heure, tu parlais de l'accent, ça s'explique par tes origines. Mmh. Ta manière de parler ou même de mal parler, ça s'explique aussi souvent par tes origines, par ta maîtrise du français, c'est ce que tu as appris, ton environnement et tout ça. Mais ça, est-ce que c'est, vraiment ça fait de toi la personne qu'on décrit? Tu parles mal le français, donc t'es idiot. Tu parles bien le français, donc t'es intelligent.
C'est un bon exemple, oui, de voir l'opprobre social dont il est recouvert. En plus, les gens font, les stand-uppers font que des blagues sur son physique. Mmh. Donc, ils se foutent de sa gueule physiquement, sur la façon dont il parle. C'est un pur exemple, pur. Au sens pureté de l'exemple. C'est un très bon exemple, effectivement, de... Je ne sais pas quoi te dire d'autre que, effectivement, c'est rédhibitoire, quoi. Si tu fais une faute ou si tu fais... aujourd'hui, on fait des top 10 sur Internet, des fautes de français qui m'arrachent l'oreille, etc. Le jeu consiste... Il y a les perles du bac. Ça, c'est un truc super à la mode et qui consiste à vraiment... À mettre le doigt sur l'autre, celui qui fait une faute et tout.
Mmh. Et tout le monde s'est déjà marré là-dessus.
Ouais,
quoi,
mais tout le monde, ça arrive à tout le monde de faire des coquilles, des cuirs, des mauvaises liaisons, des calembours involontaires. C'est le signe qu'il y a des locuteurs. On est tout le temps en train plus ou moins de faire des erreurs. Là, on prononce pas les négations, par exemple, mais on pourrait dire que on a fait un certain nombre d'erreurs qui ce serait absurde de faire le décompte de tout ça. Mmh. Et ceux qui reprochent à Ribéry de pas parler français, on peut les attendre et puis faire la liste de toutes les incohérences de ce qu'ils disent, quoi.
Samba.
Ouais, et Ribéry, c'est un peu le cas caricatural parce que pour le coup, il a fait des fautes extraordinaires. Mais moi, j'ai vu passer, voilà, pareil, des critiques sur même Evra, par exemple,
sur
Samir Nasri dans un tweet, des choses comme ça. Et en fait, c'est assez. Moi, j'ai l'impression que il y a du mépris, mais même une espèce de déconnexion du français parlé par les gens en général. C'est-à-dire que quand on a été jeune journaliste et qu'on a fait pas mal de micro-trottoirs et choses comme ça, bah, on sait que le niveau moyen des Français en français, bah, il est pas bon et que souvent, bah, quand tu fais le montage. Tu dois essayer de sauver la personne, quoi. Mmh. Et quand t'as quelqu'un qui parle, qui fait des phrases très bonnes, on appelle ça des bons clients. Mais en général, c'est des spécialistes, c'est des gens qui l'ont travaillé, etc. Et le français en général, bah, il parle avec des fautes, quoi. Mais c'est vrai que la télé n'accepte pas, les médias n'acceptent pas en général des gens qui parlent pas bien. Ouais.
Et ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on appelle le français institutionnel, celui des institutions qui n'a rien à voir avec celui qu'on écrit parfois. Hein. Là, tu donnais l'exemple des policiers, par exemple, mais moi, il y a celui des profs de sport aussi, qui est très quand ils doivent déchiffrer ce qu'on leur demande de faire, le référentiel, je m'en rappelle plus, le référentiel rond, je sais pas quoi pour dire le ballon, tout un jargon que seuls ceux qui l'ont écrit connaissent, quoi.
Ouais, il y a tout un jargon de l'éducation, de l'administration, qui consiste à employer des mots assez abstraits avec beaucoup de syllabes pour donner une apparence de sérieux, quoi, aux propos, alors que si on utilisait des mots simples, ça passerait mieux.
Ça passerait mieux. Si on s'écoutait Vince Anao que tu nous as amené, kick, snare, bien.
Ça, c'est un slammer, rappeur belge pour qui j'ai une estime très 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 grande, qui est peu connu et qui a apparemment arrêté de faire du son, mais sa maîtrise de la langue française est tout à fait étonnante, mon cher ami.
Ah oui, étonnant. bon, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après. C'est Vince Anao.
Bien, ok, kick. Je teste, mais je fais juste une touche, c'est moi. Snare, ok, kick. Ok, kick. Kick, snare, bien. Kick, snare, bien. Ok, kick, snare, bien. Kick, kick, snare, bien. Je me rappelle au moins d'où je viens. Une rue, un clair de lune, je me souviens. J'étais un chien, j'étais peut-être reniflé le cul avec une meute, c'était les miens. À vouloir être les putains, on avait tous les couilles en main. Je peux pas parler de flingue, votre garçon est si malsain. Mais tes œufs et malin, c'est ce que diraient nos bulletins. Et ses yeux sont moins blancs depuis qu'il traîne avec un tel. Et ses poings sont pleins de sang depuis qu'il traîne dans les ruelles. Seul, je frappais dans les murs, c'était créer l'armure que les chevaliers du zodiaque m'avaient vendu pour une princesse en plus. Canal Plus, tiens, sus, on draguait sous nos capuches les secrets de l'abribus. Là où les gens paumés formaient des groupes de gens qui s'étaient trouvés. Où les gens paumés formaient des groupes de gens qui devaient prouver. Où les gros cerveaux voulaient refaire le monde comme des gros poneys. Où les gros cerveaux voulaient refaire le monde avant de se le trouer. Je parle d'ado, c'est vrai. Puis j'y regarde plus près. Certaines choses sont toujours vraies. Et c'est rare que ça nous effraie. Toujours on s'abîme, c'est juste autrement que ça se décline. Nos lignes de vie sont des effrites. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. C'était quand qu'on était clean. Dans les couloirs de nos botanies. C'était quand qu'on était clean. Quand on vit nos vieux délires. C'était quand qu'on était clean. Nos lignes de vie sont des effrites. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. Ouais, parfois, bah je décline. Dans les couloirs de nos botanies. Bah parfois, ouais, je décline. Quand on vit nos vieux délires. Ça arrive que je décline. Nos lignes de vie sont des effrites. Ouais. Ouais. Plein Pax, plein, plein, plein. Tease, Pax, plein, 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 tease, Pax, plein. Je me rappelle que tout va bien. Les troupes de Peter Pan squattent la piste sans frein. La descente dramatise, alarmiste à peine. Les braguettes à la quête de ces mistinguettes. Je suis peut-être ton plan sauvegarde et toi mon panier de crabe. Ou alors le futur motif pour que je me crame le crâne. Sexuel locomotive, sensuel au possible. Mais tes draps sont déjà crades, donc tes bras sont déjà sales, ouais. Triste tableau, nous voici partis à la chatte dans un désir de chameau. Pour épancher notre soif, on a essoré des rameaux. Et dans la cour, on a formé le groupe à l'opposé des apôtres. Pour le coup, il y avait des fauves et des plantes miracles. Donc des grands mirages, suivis de grandes rigoles. Après de grands virages, suivis de grosses picoles. Et puis du retour en cage, suivis du cul et des héros sans cap. Je parle d'ado, c'est vrai. Puis j'y regarde plus près. Certaines choses sont toujours vraies. Et c'est rare que ça nous effraie. Toujours on s'abîme, c'est juste autrement que ça se décline. D'autres monstres nous animent. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. C'était quand qu'on était clean. Dans les couloirs de nos botanies. C'était quand qu'on était clean. Quand on vit nos vieux délires. C'était quand qu'on était clean. Nos lignes de vie sous des effrites. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. Ouais, parfois, bah je décline. Dans les couloirs de nos botanies. Bah parfois, ouais, je décline. Quand on vit nos vieux délires. Ça arrive que je décline. Nos lignes de vie sous des effrites. Ouais. Bien.
C'est Vince Anao qui nous a été amené par Julien Barret, notre invité d'aujourd'hui, celui qui nous apprend à parler le français aujourd'hui. C'est sympathique. Bon, mercredi après-midi, je pourrais dire que c'est pour les enfants, mais le mercredi après-midi, il n'y a pas école. Donc, il y a école quand même.
C'est un atelier spécial.
Atelier spécial. On parlait de cet autre français, celui des institutions, qui n'est pas forcément le même que celui qu'on parle habituellement. La première chose, et d'ailleurs c'est le premier mot du titre de ton livre, c'est le tu. Et moi je veux parler du vous. C'est-à-dire qu'en français, le vouvoiement, c'est quelque chose qu'on aurait pu aussi réformer.
Ouais.
Se dire, on dit soit tu, soit vous, ou ça revient au même, mais c'est aussi quelque chose pour distinguer. Tu dis vous à quelqu'un que tu connais pas, ou quelqu'un quand il faut être déférent, quelqu'un qui. Ça montre une hiérarchie, une hiérarchisation, enfin.
Oui, c'est intéressant. Ce tutoiement et ce vouvoiement existaient dans l'anglais médiéval, et il a été supprimé, et en particulier chez les Américains, où il y a une forme de familiarité. Ce serait difficile à imaginer aujourd'hui un vouvoiement. Et voilà, ça dépend des langues, ça dépend des cultures, mais effectivement, la déférence, la distance, le respect sont marqués par le vous. C'est intéressant de voir qui tu tutoies, qui tu vous vois, si tu rentres dans un lieu où tu connais personne, est-ce que tu peux les tutoyer. Il y a des gens qui tutoient tout le monde, d'autres non. C'est vraiment un rapport aux autres qui est différent selon les communautés de gens. Et qui, en fait, assimiler le tutoiement à un manque de respect, c'est absurde. C'est ce que font un certain nombre de gens. Ça peut être une forme de fraternité, de respect, de considération, de considérer l'autre proche de soi, etc. C'est des questions que j'ai pas trop creusées, mais qui sont intéressantes.
Ouais, c'est ça. Il est intéressant, hein, ton livre. Mais c'est vrai qu'il y a ce genre de choses-là. Ouais. C'est peut-être pour le deuxième tome. Hein, ouais. Le deuxième tome. C'est-à-dire, mais là, c'est plus. Là, c'est la langue, mais parler de ce qu'elle révèle sur les Français, justement.
Ouais.
Là, par exemple, tu prenais l'exemple de Shakespeare pour l'anglais. Tu disais, bah, Shakespeare, bah, tout le monde comprend.
Je disais que...
Ou du moins, il est plus proche, ou il est...
Je disais que dans Shakespeare, en fait, ouais, il n'y a pas ce nivellement social dans Shakespeare. Mm. Alors déjà, dans Shakespeare, il y a beaucoup plus de mots que dans Racine, puisque la langue française, elle a voulu épurer cette langue-là, avec cet idéal de pureté, etc., supérieur. C'est une langue avec peu de mots choisis, etc. Dans Shakespeare, il y a plein de mots. Il y a le mot des corporations, il y a les mots... Il y a les mots des vendeurs, il y a les mots des marchands, il y a les mots du peuple, il y a les mots de l'aristocratie. Shakespeare, il fait rentrer toute la société dans ses œuvres. Et il n'y a pas de. C'est pas l'œuvre de l'aristocratie ou des cavaliers. C'est le monde de tout le monde qui rentre dans Shakespeare. Il fait rentrer le monde entier dans ses œuvres. Mmh. Il faut attendre Molière pour voir des paysans parler, mais il y a un peu une distance comme ça. Et après, si tu considères ce qu'ils sont. Considérés comme les deux grands écrivains du XXe siècle en France, Proust et Céline, tu as un côté qui va être considéré comme l'écrivain de l'oralité des classes populaires et l'autre de la grande aristocratie du XVIe arrondissement. On n'a pas de personne pour fédérer. Ça, j'ai repris ce que disaient deux poètes qui s'appellent Jacques Darras et Yvon Lemaine dans un livre d'entretien où ils disaient qu'en France, on a un déficit de langue populaire dans la littérature française et on n'a pas de Shakespeare national pour fédérer toutes les classes sociales dans une seule langue. Ça, Shakespeare a réussi à faire ça.
Est-ce que, là, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait parlé de cette langue, des SMS, est-ce que ça, c'est pas une langue qui peut fédérer tout le monde, ça ? Même si, on se rapproche...
Le langage SMS,
ça peut pas... Au contraire.
Ça fédère tous les gens qui utilisent leur SMS ou leur téléphone au même instant, mais...
Le truc d'écorcher l'oreille, justement, mais comment ils font tous ceux qui défendent la langue française, qui sont on va dire horrifiés par ne serait-ce que ton titre, comment ils peuvent pas envoyer des SMS eux.
Non. C'est marrant avec les SMS, c'est que ça a changé au début, quand on avait les portables au début, les forfaits étaient limités, il n'y avait pas trop de... Il fallait payer pour avoir...
Ouais, c'était l'économie.
Ouais.
C'était l'économie qui régissait.
L'économie, c'était une contrainte, hein, peu façon des écoles littéraires comme l'Oulipo, Raymond Queneau, il a écrit par ailleurs en langage phonétique. Mais donc tu trouvais comment, en un minimum de caractère possible, exprimer le plus. Et c'est ça qui a donné au début le langage SMS. Aujourd'hui, les smartphones, en général, c'est illimité. Et t'as des correcteurs orthographiques. Et finalement,
je voulais parler de ça aussi, les correcteurs.
Écrite, elle est bien meilleure. Ils t'enlèvent des fautes d'orthographe. Et tu peux même plus faire d'abréviation. J'aime bien à mes interlocuteurs, aux gens à qui j'écris des SMS, faire des blagues ou faire de la phonétique. Et je peux même pas. À chaque fois, je suis corrigé par le correcteur orthographique. Ouais. Donc là, on retrouve. Enfin, ceux qui pourfendent la langue phonétique généralisée, ils devraient être très heureux de l'arrivée des correcteurs orthographiques et puis des forfaits illimités.
Ouais. Je voulais te poser cette question, tu as répondu sur les correcteurs d'orthographe, tu vois, t'écris ou même maintenant tu dictes, tu peux dicter.
Ça c'est l'avenir, c'est un linguiste qui me disait ça.
Mais moi j'ai peur que ce soit la fin de la langue, tu dictes, tu sais plus écrire ensuite, la fin de l'orthographe, puis si t'as un correcteur qui te fait porter, tu fais plus d'efforts.
Alors la langue qu'on parle, elle devrait, enfin le problème c'est qu'on ne parle pas la même langue qu'on écrit en France, etc. Mais ça devrait être la même, et si c'était la même, il y a moins cette différence en anglais entre l'écrit et l'oral, ce qui fait que peut-être c'est plus difficile de lire une langue classique vu qu'on n'y est pas habitué, mais la langue c'est la même. Donc si t'as les logiciels au début c'était Dragon et maintenant t'as Google Voice et tout ça, l'avenir effectivement ça peut horrifier beaucoup de gens, c'est que à la fin on sera plus obligé d'écrire.
Ouais.
Enfin, certaines personnes, si elles le désirent, ne seront pas obligées d'écrire. Elles diront les choses. Reconnaissance vocale, ce sera traduit par le logiciel qui va l'écrire à ta place et qui sans doute l'écrira beaucoup mieux que tu ne l'aurais fait toi-même.
Bien sûr.
Donc c'est intéressant. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un enjeu incroyable de tension affective chez les gens. Quoi.
Tu parlais des lettres de motivation. Pourquoi
Ah ouais,
tu as envie d'être, vendeur, gardien d'immeuble, je sais pas quel métier, ouvrier ou je ne sais quoi, tu es obligé de faire une lettre de motivation, monsieur, mes sincères salutations, monsieur étant, monsieur, enfin, prouver que tu parles
donnez-moi
français
châtié. Donnez-moi vos qualités, alors tu ouais. déclines tes qualités. Ouais. Une lettre de motivation, c'est figé. Si. Enfin, je sais pas, je recrute personne, mais j'attendrai, si je recrutais des gens, qu'ils fassent des choses qui sortent de l'ordinaire. Or, des lettres de motivation, il y en a des modèles sur Internet, et que font les gens en général? Ils les copient. Et donc, tout le monde s'exprime de la même manière, d'une façon absolument pas naturelle, oui. figée dans une sorte de norme de discours administratif qui reflète pas les motivations,
oui.
et qui reflète une sorte de langue morte, morte au sens... qui ne vit pas, quoi, qui n'a pas de décence, de sève, le désir de quelqu'un qui dit « je voudrais faire ça », plutôt que de dire « je vais exposer ». Enfin, je ne sais même pas comment on écrit une lettre de motivation.
Toi qui... tout à l'heure, on a parlé de ton appétence pour le rap, pour le spoken word, pour les, et pour le stand-up aussi. Mm. Au niveau du rap, tu vois une différence, justement, dans le français, là, tu sais, mélangeons les deux, linguiste... ça fait un moment que tu écoutes du rap.
Mmh. En différence entre quoi ?
Dans la langue.
Dans la langue. Dans l'évolution. Du rap par rapport à lui-même d'il y a 20 ans.
Voilà,
par exemple.
Voilà, ouais. Dans la langue.
Le rap du tout début de Solar et pré-Solar, mmh. il était, et même le début.
Le prévert du rap. De... oui, Solar, le prévert du rap.
Ouais. ouais. Et même le tout début de NTF, ouais. c'était une langue très classique. Hein. Mmh. C'était une langue qui recopiait un peu les alexandrins, mmh. qui recopiait des vers tatatitata, tatatitata. C'est un peu du grand corps malade, si tu veux.
Ouais.
Au niveau, enfin, la langue du grand corps malade n'est pas classique, mais sa scansion, son mode d'écriture poétique avec des alexandrins ou des décasyllabes, c'est ça qu'on avait au début avec Solar et même avec les débuts de NTF.
Aussi, ouais.
Avec
aussi.
La deuxième vague du rap. Que j'identifie à Hostile, Time Bomb 94-95 avec des groupes qui sont encore là comme l'arrivée de Lino, Arsenic, Booba qui est connu maintenant mais d'autres qui ont disparu. Ils ont été plus influencés par les Américains, il y a eu un renouvellement du flow et quand tu vois les textes des X-Men à l'époque, oui. c'est plus une juxtaposition, on appelle ça de la parataxe, c'est-à-dire c'est plus de la syntaxe mais c'est les mots qui sont juxtaposés les uns aux autres. C'est plus une écriture, une essence poétique dans l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture poétique ça doit pas être sujet, verbe, complément. Mmh. Ça doit être renouveler une forme de syntaxe pour dire le monde différemment. Et le rap, il peut aussi bien être I am, ça va être parfois très classique. Quand tu prends Demain, c'est loin, mmh. tu lis le livret, c'est des quatrains ouais. qui sont disposés. Il y a une recherche de légitimation poétique, culturelle, avec des quatrains et peut-être des alexandrins. À l'inverse, tu vas voir des blocs de texte chez Booba, par exemple, pour prendre cet exemple, mais il y en a plein d'autres, qui vont faire que bah, cette langue-là, elle est travaillée dans un sens oralisé et tout, mais c'est pas du tout la langue classique. Quoi. Ouais.
Est-ce que c'est l'américanisation du rap français ou la mondialisation du rap français c'est plus... Parce qu'au départ, tu vois, quand on connaissait pas le rap, il fallait écrire, tu prenais un dictionnaire, tu prenais des cours de syntaxe, pas forcément des cours, mais en tout cas, tu les références, c'était les autres écrits.
C'est très intéressant comme question. Est-ce que l'américanisation du rap français, c'est l'américanisation du flow ?
Voilà,
le flow ouais. des rappeurs américains, il a été copié par Busta Flex, Hill, Booba, etc.
Et l'importance que tu donnes aussi,
Oxmo.
L'importance que tu donnes à l'écrit, au flow, dans ton texte,
mais
dans ton rap.
Une
quoi,
fois
je veux dire.
Que tu t'octroies un flow américain, peut-être que tu peux te permettre de te sentir plus libre, t'as moins de pression. Que le tout premier rappeur français qui a écrit un truc, il devait avoir une pression énorme.
Oui.
Donc il s'est dit, je vais faire comme à l'école, je sais pas. Et puis avoir l'américanisation du rap aurait eu cet effet positif s'il y a eu une américanisation du rap français, c'est de permettre finalement de libérer les carcans de l'écriture et puis de retrouver une écriture française ailleurs. D'ailleurs. Souleymane Diamanka et John Banza, ils avaient écrit un livre de poèmes qui se disait « J'écris en français dans une langue étrangère
ouais. ».
Et c'est une question de Deleuze, être étranger à sa propre langue. Faire le détour par une autre langue pour écrire dans sa propre langue, c'est très enrichissant.
Mmh.
Ça produit des trouvailles poétiques.
Et j'ai l'impression que c'est très français, parce que j'ai l'impression que... Le français, ça, tout à l'heure, on a dit discriminatoire, stigmatisant un peu, quoi. Tu vois, quand tu parles, on parlait de langage SMS ou des. Je pense qu'il y a, beaucoup de gens qui te corrigent aussi, là aussi, sur Internet, qui corrigent le français. Tu vois, quand tu regardes les discussions, il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui dit, mais ça se dit pas comme ça, ça se dit comme si, et enfin voilà, quoi. Il y a.
Et puis t'as des gens qui donc c'est les commentaires des commentaires des commentaires. Puis à la fin, t'as quelqu'un qui dit, ah bah c'est bien la peine de corriger les autres si c'est pour soi-même faire des fautes, et on pourrait faire des listes à l'infini
tout
comme
à fait,
ça.
Bon ben par contre l'émission elle peut pas durer à l'infini, il nous reste très peu de temps et deux sons à écouter. Si on devait choisir, tu nous as amené Roy Ayers ou Ready Made?
Roy Ayers.
Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Avant ça, je demande à mon invité de nous amener un objet. Est-ce que tu nous as amené quelque chose?
C'est pas original, mais en fait, c'est un objet qui est censé être indispensable.
Ouais.
Alors, ce serait le smartphone, pas dans l'utilisation du SMS, mais je trouve incroyable qu'on puisse avoir les dictionnaires, Wikipédia, ou alors on pourrait avoir l'application Litré pour faire snob, mais avoir une discussion avec quelqu'un et pouvoir vérifier des chiffres directement, je trouve ça génial. Il y a Google Maps qui est génial et Wikipédia ou l'utilisation des dictionnaires en ligne pour savoir de quoi on parle.
Très bien. Si je te laissais une minute pour dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, un coup de gueule, un message, dire ce qu'on a oublié de dire sur ton livre, tu parles bien la France, je sais pas, dire ce que tu veux à qui tu veux, aux auditeurs, les prévenir de quelque chose d'imminent ou enfin bref, c'est ce que j'appelle la minute de l'invité, ça commence maintenant.
Je trouve un intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir accès au dictionnaire sur les smartphones et je trouve que c'est un progrès. On parle souvent de la régression d'Internet, mais le fait de pouvoir vérifier le sens d'un mot ou trouver une source quand on s'exprime. Ce que j'avais envie de dire, bon, j'ai mis longtemps à le trouver, et je trouve que la plupart du temps où les gens prennent la parole, ce qu'ils disent, c'est en général, c'est pas la vérité de ce qu'ils disent qui importe, mais c'est ce qu'ils ont envie de dire. Et ce que on croit d'un locuteur, c'est pas on cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas, on cherche à savoir s'il le dit avec émotion ou pas, ce qui fait que toutes les idées les plus banales comme les plus sordides peuvent prévaloir simplement parce qu'on ne cherche pas à vérifier des choses et qu'on les diffuse de cette manière.
Malheureusement, on n'aura pas le temps d'écouter entièrement Roy Ayers. Bon, on écoutera ce qu'on peut. On écoutera. Non, c'est pas à cause de toi. C'est que voilà, tu sais, on parle. Mais et en plus, j'ai une dernière question à te poser. Maintenant qu'on arrive au terme de l'émission, t'as vu l'émission. En plus, ça fait la deuxième fois que tu viens. Est-ce que tu peux nous aider? Qui devrions-nous inviter? Est-ce que t'as une idée d'une personne qu'on devrait inviter? Ce serait pas mal de l'entendre ou que toi-même tu voudrais entendre. Je sais pas, n'importe qui.
Bah, juste, faudra que je réfléchisse et je t'envoie un mail. Je pense qu'il y a des gens à inviter. Parmi les rappeurs et parmi les stand-uppers, il y a des gens à inviter. J'ai pas de nom immédiatement. En plus, on me demande tout le temps ça. Qu'est-ce qu'il faut aller voir au théâtre en ce moment et tout. C'est tellement
critique
la
en
même
plus,
question
hein.
Que je leur dis, j'arrive même plus à répondre.
Aller au théâtre, tout simplement. T'as notre mail, tu nous enverras et on le transmettra aux auditeurs. En tout cas, on se quitte avec Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Pourquoi?
Parce que cette chanson, elle me fait me sentir bien. Et que, bon, là, on n'est pas en été, on parlait de l'automne, des feuilles mortes et tout ça. Mais ça peut te faire te sentir en été.
Ouais.
Si tu fermes les yeux.
In a good mood. Julien, merci. Julien Barret, c'est.
Merci, Max.
Tu parles bien la France. Essai sur la langue française d'aujourd'hui. Comme je le disais, très intéressant. Ça parle du passé, ça parle du présent, très vivant, les origines de la langue. Et peut-être que ça décomplexe un petit peu. Parce que je trouve que
ça a cet effet, j'en serais ravi.
Parce que je trouve que c'est le français un peu, tu vois, qui ça te laisse un petit peu à la marge parfois. D'accord, je me la ferme. Je dis au revoir. On écoutera Roy Ayers. Je dis aux invités à la semaine prochaine. C'était Bienvenue chez WAM. Merci Julien.
Et merci beaucoup.
Ciao. We'll be right back.
sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine, yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. 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 My life, my life, my life, my life, and the sunshine. Everybody loves the sunshine.
Eh bien vas-y va, gueule ta gueule pas, ferme-la.